Bonjour. Bonjour à celles et à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Bonjour à tous. Nous allons bien sûr ouvrir la Bible dans un instant dans l'évangile de Luc. Mais avant cela, j'aimerais nous interpeller tous ici en nous posant une question. Une question qui illustre aussi en partie là, le message qui va être celui de ce matin. Comment est-ce que vous réagiriez si vous receviez chez vous, donc à votre domicile, à votre maison, une personnalité? Quelqu'un dont le statut social est considéré comme important. Quelqu'un d'important. Je sais pas, un responsable politique, voire plus, un monarque, un roi, une reine. Quel serait votre état d'esprit si vous saviez que cette personne, au moment où je vous pose cette question, était en chemin pour votre domicile, pour vous rencontrer personnellement? Kevin, si je t'informais qu'à la minute où je te parle, la reine Elisabeth, Her Majesty the Queen, était en route pour Cavaillon, pour la route des Taillades, pour venir chez toi, quel serait ton état d'esprit? T'es pas obligé de répondre. Je pense pouvoir dire que pour la plupart d'entre nous, en tout cas, on ne serait pas forcément rassuré. Peut-être qu'on ressentirait une forme d'honneur, mais nous nous poserions aussi tout un tas de questions. Bon, mesdames, dans quelle tenue je vais la recevoir? Que va-t-elle penser de ma maison, de mon modeste appartement, si je ne vis pas dans une maison? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui servir à manger? Peut-être pour messieurs aussi, ça. Pour messieurs, de quoi allons-nous bien pouvoir discuter, si elle vient chez moi? Tout un tas de questions, en fait des questions qui trahiraient le décalage entre la condition de cette personne, son identité, son pouvoir, et notre propre condition, notre identité, notre pouvoir. En clair, qui suis-je? Qui suis-je pour recevoir cette personne chez moi? Je propose que nous ouvrions nos Bibles dans l'évangile de Luc ce matin, au chapitre 7. De ce livre, de cet évangile. Et nous allons lire ensemble les dix premiers versets de ce chapitre. Nous allons y découvrir l'histoire d'un homme relativement important, mais qui s'est retrouvé face à un problème insoluble. Nous verrons ce que cet homme a éprouvé en apprenant que le Seigneur était sur le point de venir en personne chez lui, à sa maison. De l'indignité face à la personne de Christ, mais aussi et surtout de la foi dans son autorité suprême. Nous verrons alors que Dieu approuve la foi de ceux qui, se sachant indignes, reconnaissent sa toute-puissance et son autorité. C'est ce que vous retenez du message de ce matin, alors vous aurez retenu l'essentiel. Dieu approuve la foi de ceux qui, se sachant indignes, reconnaissent sa toute-puissance et son autorité. Je lis donc les 10 premiers versets du chapitre 7 de l'évangile de Luc, et je lis, comme on a l'habitude dans cette église, dans la version second 21. Évangile selon Luc, chapitre 7, à partir du verset 1. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaüm. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « pars » et il part. À un autre « viens » et il vient. Et à mon esclave « fais ceci » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade, en bonne santé. La lecture s'arrête ici. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on surnomme parfois l'évangile de Luc ? Quel est le surnom qu'on donne à cet évangile parfois ? Il arrive qu'on appelle cet évangile, je vous donne la réponse, l'évangile pour les païens. En complément de l'évangile de Matthieu, que Matthieu donc, a écrit particulièrement, en tout cas à destination des juifs. L'évangile de Luc, lui, c'est l'évangile pour les païens. Car dans ce livre, l'auteur, Luc donc, s'attache à mettre en relief la façon dont Dieu veut sauver les non-juifs. En tout cas, il s'attache particulièrement à ça. Les païens, donc. Les païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs, donc les gens dont nous sommes aussi. Et ça tombe bien, en tout cas en ce qui concerne notre texte, puisqu'il débute justement ce texte avec la situation d'un païen. Dans la ville de Capernaum, où se rend Jésus, vit un homme dont on ne connaît pas le nom, mais dont on connaît un peu le CV, justement. Il était question de CV déjà ce matin. Je vous rassure, vous êtes bien à l'église de Cavaillon, et pas dans une agence d'intérim ce matin. Bien à l'église. Mais en tout cas, dans ce texte, on apprend un peu le CV de cet homme. Le texte nous dit d'abord qu'il est un officier romain. L'original grec est encore plus précis que la traduction et nous informe qu'il s'agit d'un centurion. En fait, c'est-à-dire que c'est un officier qui a 100 hommes sous ses ordres. Donc, il exerce des responsabilités dans l'armée romaine et il possède au moins un esclave à son service. Le texte nous apprend d'autres choses sur cet officier. Il n'est pas juif, puisqu'il est romain, mais il est particulièrement favorable aux juifs, puisqu'il a lui-même financé la construction de la synagogue de Capernaum. Cela lui vaut d'avoir la faveur des juifs et d'être estimé par le peuple de la ville. D'un point de vue humain, on pourrait dire qu'on n'a pas affaire à n'importe qui, ici. Un centurion romain qui possède un esclave, qui a des moyens financiers importants pour construire un lieu de culte, ça en jette. C'est pas rien. Le problème de ce centurion, c'est que malgré son aisance matérielle, malgré ses grandes responsabilités, il a un de ses esclaves qui est sur le point de mourir d'une maladie. Et il s'inquiète pour lui parce qu'il y est très attaché. C'est au verset 2. On ne sait pas grand-chose des motivations de l'officier à l'égard de son esclave. Assez difficile d'interpréter sa démarche à son sujet. On sait qu'il est attaché à lui, mais est-ce qu'il est attaché parce qu'il l'aimait ? Auquel cas, son geste s'apparente à de la pure générosité. Ou est-ce qu'il était attaché à lui parce qu'il avait particulièrement besoin de lui ? Par conséquent, il ne pouvait pas se permettre de le perdre. Les esclaves, dans l'Antiquité, étaient considérés presque, même pas presque, ils étaient considérés comme des meubles dans une maison. Toujours est-il qu'ayant appris que Jésus était en ville, il fait appel à lui pour le guérir. Et par humilité, l'officier ne se rend pas directement auprès de Jésus, mais il envoie des anciens juifs porter sa demande. Alors les juifs, eux, vous voyez leur attitude dans le texte, hein, ils ne s'embarrassent pas de toutes les précautions du centurion. Ils font valoir les mérites et les œuvres de cet officier lorsqu'ils vont chercher Jésus. Ils disent « Il mérite que tu lui accordes cela, il aime notre nation, c'est lui qui a fait construire notre synagogue hein, », il déroule tout le CV. L'officier, pour sa part, lui, il a sans doute déjà conscience en fait que face à Jésus, face à l'homme qu'il appelle, ce n'est pas la longueur de son CV qui fera le poids. Non seulement le centurion n'ose pas aller en personne vers Jésus, mais lorsqu'il apprend que Jésus est effectivement en route pour venir chez lui, il envoie ses propres amis pour lui demander de ne pas le faire, pas se donner cette peine. Verset 6, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Alors étant ami des Juifs, le centurion devait être renseigné sur la tradition, sur la loi juive, et il devait savoir que selon cette loi, un non-juif comme lui ne pouvait pas recevoir un juif dans sa maison sans rendre ce juif rituellement impur. C'était pas possible. Mais au-delà de cette simple question de rituel, le centurion a sans doute aussi déjà conscience de son propre statut d'homme pécheur. Ce centurion est parfaitement lucide sur qui il est, sur qui est Jésus. Il dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Dans d'autres versions, la version du semeur, si vous lisez cette version-là, il est écrit, c'est même plus explicite, « Je ne suis pas qualifié pour que tu entres sous mon toit ». On se sent interpellé par cette attitude du centurion, pas vrai? On ne peut pas s'empêcher de s'identifier à lui et de s'interroger. Pour nous-mêmes, quel regard portons-nous sur notre propre vie? Quelle est notre attitude face à Jésus? Avons-nous conscience de notre propre indignité face à lui, Fils de Dieu, et face à Dieu? Peut-être que oui, peut-être que non, pas toujours en tout cas. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes au fond pas si mauvais, que certaines choses vous qualifient pour être vu comme juste devant Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, vous vous dites peut-être que grosso modo, vous respectez la loi de ce pays, vous n'avez jamais rien commis de grave, que de temps en temps il vous arrive même de faire de bonnes œuvres. Donner à une œuvre caritative, une opération de lutte contre une maladie, que sais-je, bref, pas de quoi être disqualifié. Si vous êtes chrétien, en plus de tout ça, vous vous dites peut-être que le fait d'assister de manière assidue au culte, de participer aux activités de l'Église, de servir dans l'Église, vous rend plutôt correct aux yeux de Dieu. Seigneur, cet été, j'ai aidé à peindre le local. Quand même. Seigneur, de temps en temps, ou plus souvent, je prêche le dimanche, derrière la chaire. Mince, quand même. Pas si mal. Comprenez-moi bien. En disant ça, je ne veux pas dire que toutes ces choses sont de mauvaises choses, évidemment. Ce sont des choses excellentes à pratiquer quand on est un enfant de Dieu. Simplement, ne pensons pas que le simple fait de pratiquer ces choses nous rende acceptables devant Dieu. Ce n'est pas ça qui nous rend acceptables devant Dieu. La semaine dernière, lors du culte, Paul, dans son message, a lu une partie de Romains 3. Et je vais relire, en fait, une partie de ce chapitre pour bien prendre conscience de qui est l'être humain si on ne l'a pas, cette conscience. « Sommes-nous supérieurs aux autres ?» dit l'apôtre Paul, parlant des Juifs. « Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que Juifs et non-Juifs sont tous sous la domination du péché. » Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Voilà l'indignité de l'homme. En tant que militaire, notre officier, notre centurion dans cette histoire, était sans doute très bien renseigné sur ces choses et sur la méchanceté du cœur humain, ce à quoi l'homme était capable. Mais son attitude dans cette histoire nous montre qu'il avait bien conscience de ces réalités. Alors à ce stade, une nouvelle question se pose. Si nous n'avons rien de valable en nous-mêmes à faire valoir devant Dieu, que faire? Que faire? Quelle solution s'offre à nous pour être secourus dans nos besoins et être trouvés dignes devant lui? L'officier romain, lui, il n'a pas fait valoir ses mérites, mais il a reconnu l'autorité de Jésus. Et c'est l'objet de la seconde partie de ce message. La foi qui reconnaît l'autorité de Christ. Dans tout passage biblique, généralement, il y a une charnière, un tournant, un moment où ça bascule d'un sujet à un autre. En tout cas, une charnière, disons. Dans ce texte, ça a lieu au verset 7. Il est là le tournant de ce texte. Dans le même verset, le centurion reconnaît à la fois son indignité, « Je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit », mais il enchaîne directement avec l'autorité suprême de Jésus qu'il reconnaît. « Dis un mot, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » En disant ça, en fait, le centurion reconnaît ouvertement que l'autorité de Jésus est supérieure à la sienne, en fait. Il s'humilie, il admet qu'il n'a aucune solution pour sauver son esclave, et il s'en remet à la toute-puissance de Jésus et à sa volonté, à son autorité. En faisant cela, il fait preuve d'une foi que Jésus admire. Waouh ! Jésus a admiré la foi de cet officier. Du jamais vu en Israël, dit le Seigneur. La société postmoderne dans laquelle on vit nous encourage pas forcément à nous soumettre à une autorité morale supérieure. C'est même plutôt le contraire. C'est plutôt le règne, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, le règne du ni Dieu ni maître. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Et même certaines rajoutent ni patron ni mari. Bon, comme ça, au moins, il y a tout ce qu'il faut. Vivre la vie que l'on croit être la meilleure pour soi, s'affranchir le plus possible de toute contrainte, contester toute forme d'autorité morale, trouver ses propres solutions et écouter son cœur. Voilà. Tout cela est communément admis, voire même parfois encouragé en tant que chrétien. Vraiment, en tant que chrétien, soyons vigilants. Soyons vigilants par rapport à ça. Reconnaître l'autorité de Christ sur notre vie, ce n'est pas une option pour nous. Si nous avons été sauvés par lui, si nous croyons à l'Évangile, si nous affirmons appartenir à Dieu, alors cela doit se traduire par un règne sans partage de Christ sur notre cœur. Ça doit se traduire aussi de manière très concrète, par un caractère et par des actes qui lui ressemblent. Si Christ domine sur mon cœur, mon caractère et mes actes vont ressembler à ceux de Christ. Ça doit se voir. Donc, comme un arbre, on connaît un arbre à ses fruits. Dans la façon dont nous gérons nos biens, ça peut, peut-être même que ça doit se traduire par plus de générosité. Dans notre manière de nous comporter avec les autres, ça peut et ça doit se traduire par plus d'humilité, plus de douceur, qui était celle de Christ. Dans notre témoignage au quotidien, ça peut se traduire par de la compassion pour les perdus qui nous entourent et que Dieu veut sauver aussi, il n'y a pas que nous. Notre responsabilité de croyant, c'est de rester soumis à l'autorité de Christ et de laisser cette autorité nous transformer à son image. Dis un mot et mon serviteur sera guéri, affirme le centurion. En fait, pour lui, Jésus n'a même pas besoin de se déplacer. Sa parole suffira à produire un effet. En l'occurrence, la guérison de son esclave. Dans le texte que nous avons lu ce matin, Jésus ne prononce pas directement une parole de guérison pour cet esclave. Je ne sais pas si vous avez fait attention, Jésus en fait, il ne parle pas forcément. Alors, on peut malgré tout imaginer qu'il l'a fait. Parce qu'il se trouve que dans l'évangile selon Matthieu, justement, il y a un texte équivalent, c'est en Matthieu 8. Il y a la même histoire, en fait. Et dans ce texte de Matthieu 8, Jésus dit à l'officier qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Jésus prononce cette parole. Parole de guérison ou pas, on sait bien que c'est pas ça qui change. Le dénouement de cette histoire nous renseigne de toute manière sur la nature divine de Jésus et sur la nature divine de son autorité. Que ce soit par volonté, par parole, seul Dieu peut guérir ainsi une personne de cette façon. Petite illustration. Imaginez-vous dans un tribunal. Dans ce contexte, l'autorité, elle est entre les mains, l'autorité finale, entre les mains du juge, des jurés et du juge surtout. Pour que la sentence prenne effet, que ce soit la condamnation ou la relaxe, il faut que le juge le veuille et le prononce. Sa parole témoigne de l'autorité dont il a été revêtu. Et cette parole, elle est suivie d'un effet, la condamnation, la relaxe. Je n'ai pas employé l'exemple de la parentalité par humilité. La Bible affirme que ce que Dieu dit, il est puissant pour l'accomplir, car il est Dieu. J'aimerais vous lire un passage connu tiré du livre d'Ésaïe qui appuie cette vérité. Ésaïe, au chapitre 55, versets 10 et 11. « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. » Parce que Dieu détient l'autorité, sa volonté s'accomplit toujours. Dieu a voulu, en tout cas dans cette histoire, que ce centurion obtienne la guérison de son esclave. Ça s'est produit, parce qu'il l'a voulu. Et nous alors, notre situation, qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour notre vie, pour les situations insolubles de notre vie, et pour raccrocher un peu tous les wagons du message, pour notre indignité ? Nous vivons aujourd'hui dans un temps de grâce durant lequel l'autorité de Dieu, qui est bien réelle, est accompagnée de patience, de compassion et d'amour de sa part. Dieu appelle les hommes et les femmes, juifs et païens, à l'écouter, pour être sauvés et le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Pas seulement question de la guérison de notre corps terrestre. De toute façon, ce corps, il est destiné à la poussière. Il est surtout question du salut de notre âme, en fait. En 1 Timothée 2, versets 4 et 5, nous lisons « Dieu désire, verbe fort, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » C'est pour ça que Jésus est venu dans ce monde, pour ça qu'il s'est incarné. Accomplir la mission de salut de Dieu en faveur d'êtres humains indignes qui ne le méritent pas. Christ est mort sur la croix, puis ressuscité, pour que des personnes indignes, comme le centurion de cette histoire, mais aussi comme vous et moi, puissions être lavés, purifiés, guéris de toutes nos fautes et de toute notre indignité. Et c'est cette grâce qui nous fait vivre aujourd'hui. Si vous êtes chrétien, c'est cette grâce qui vous permet de vous tenir quotidiennement dans la présence de Dieu. Comme je l'ai dit précédemment, pour un chrétien, être soumis à l'autorité de Dieu, c'est développer le caractère de Christ, c'est chercher à faire la volonté de Dieu. Faire preuve de bonté, de douceur, d'un esprit de service, tout ça c'est bon. Mais ça ne peut être agréé par Dieu que sur la base de ce que Christ a lui-même accompli. Sinon, tôt ou tard, c'est entaché de péché. C'est entaché d'indignité, notre indignité. Voilà pourquoi il est important pour nous chrétiens de nous souvenir quotidiennement de la grâce que Dieu a manifestée à notre égard et de ne pas oublier l'Évangile, voire même de se prêcher l'Évangile chaque jour, tous les jours, on en a besoin. Ça ne change pas. Si vous n'êtes pas encore chrétien, c'est par cette grâce que Dieu veut vous réconcilier avec lui et vous donner sa paix. Comme notre ami Paul l'a prêché dimanche dernier, n'attendez pas. N'attendez pas. Un jour, ce temps de grâce prendra fin. Ce sera fini. Et Dieu parlera, se lèvera de son trône, il parlera. Plus pour sauver, mais pour juger tout être humain. Quel côté est-ce que vous serez à ce moment-là? Et pour aujourd'hui, ce qui nous concerne aujourd'hui, prenons une décision et remercions le Seigneur, remercions Dieu d'avoir jusqu'à aujourd'hui utilisé son autorité de cette façon, avec amour, avec compassion, avec grâce. Pas pour nous anéantir, nous, comme il aurait pu le faire, mais pour anéantir le pouvoir du péché sur notre vie. Pas pour nous éliminer, mais pour vaincre notre ennemi, le diable, qui est vaincu. Pas pour nous faire mourir, mais pour nous assurer la vie éternelle, la résurrection de Christ, qui assure la nôtre. J'arrive à la fin de ce message, en conclusion. Qu'est-ce qu'il nous faut retenir de ce passage, de Luc 7, 1 à 10 ? Travers cette histoire, encore une fois, retenons simplement que Jésus, si vous pouvez retenir plus, c'est bien aussi, mais retenons l'essentiel, que Jésus approuve la foi de ceux qui, se sachant indignes, reconnaissent son autorité divine. J'ai beaucoup parlé d'indignité dans ce message. Mais j'aimerais laisser une dernière pensée sur vos cœurs ce matin. Peut-être, en tant que chrétien, que vous vous sentez indigne encore ce matin. Si c'est le cas, considérez la dignité du Seigneur Jésus. Considérez à quel point tout en lui est parfait. Tout en lui est bon. Tout en lui est juste. Demandez-lui pardon pour votre indignité. Et recevez simplement le pardon qu'il vous a lui-même acquis à la croix. Souvenez-vous que spirituellement, si vous avez cru en Christ, si vous avez la foi en Christ, vous êtes unis à Christ. Vous êtes unis à Christ. Il vous rend capable, par sa grâce, de vivre une vie qui lui est agréable. Ce n'est pas une fatalité, l'indignité. Christ nous rend capable par sa grâce de vivre une vie qui lui est agréable si on reste soumis à son autorité, bien sûr. Par conséquent, priez-le de régner avec autorité sur chaque aspect de votre vie. Prions-le de régner avec autorité sur chaque aspect de notre vie, de nos vies. Si vous n'êtes pas encore chrétien, mais que vous vous savez indigne devant Dieu, commencez par reconnaître cet état, première étape. Demandez-lui pardon pour vos fautes et recevez la dignité nouvelle qu'il veut vous donner. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mériter. Ce n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Donc que toute la gloire lui revienne à lui seul. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur, ce matin, nous avons célébré par nos louanges ton règne, ton autorité sur ce monde, sur cet univers que tu as créé. Et Seigneur, combien est-ce que nous regrettons que tu ne règnes pas toujours comme tu le devrais dans nos cœurs, dans nos vies, ce alors que nous t'appartenons. tu ne règnes pas totalement, en tout cas, les aspects de nos vies qui ne te rendent pas gloire. Mais Seigneur, ensemble ce matin, nous voulons, oui, reconnaître ton autorité, soumettre à cette autorité et te demander, Seigneur, s'il te plaît, de nous garder sous cette autorité. C'est le meilleur endroit où nous puissions être pour nos vies, à l'autorité, soumis à l'autorité du Dieu bon et parfait et juste, soumis à l'autorité de Christ. Seigneur, je te prie vraiment de nous aider chaque jour à cela, pas pour notre gloire, mais pour la tienne, que tu sois glorifié au travers de nous, que ta gloire resplendisse ici-bas, Seigneur. Merci de continuer ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. Merci de continuer cette œuvre aussi pour que d'autres personnes puissent encore être sauvées, les personnes que tu veux sauver, Seigneur. Merci de continuer cette œuvre en nous pour cela, jusqu'au moment où tu auras décidé que cela prendra fin. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.